Les séminaires du Collège de France.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être devant vous aujourd'hui et je remercie Vincent Pirène Delforge de m'avoir invitée et de m'avoir suggéré d'explorer cette piste sacrificielle en lien avec la présentation qu'on a eue juste avant. Alors, saviez-vous qu'il était de mauvais augure de naître au mois de Nissan, c'est-à-dire entre le 15 mars et le 15 avril? C'est ce que nous rapporte un présage daté de l'époque néo-assyrienne, donc c'est-à-dire 8e, 7e siècle avant notre ère, qui est tiré du calendrier babylonien des mois et des jours, la série qui s'appelle Ikur-Ipush. Le présage complet nous est connu grâce à d'autres tablettes qui portent ce présage et qui permettent de reconstituer le présage suivant. Donc, si au mois de Nissan, donc je vous rappelle, ça arrive très bientôt, 15 mars, 15 avril. Si au mois de Nissan, du 1er au 30e jour, un enfant est né, quand l'enfant sera debout, littéralement c'est sur ses pieds, la maison de son père sera dispersée. Son père ou sa mère mourra de la main du dieu, ou la main du roi l'atteindra. Là, ce sont des types de maladies. L'enfant, pour le reste des jours, ira bien. Si l'un d'entre vous ou si un de vos proches est né pendant cette période, pas d'inquiétude pour autant. La composition sur laquelle est tiré le présage nous donne la procédure rituelle appelée Namburbu, destinée à contrecarrer les effets de ce mauvais signe. Et voici ce qu'il convient de faire. Alors le texte est un texte composite que l'on peut reconstituer à partir de plusieurs tablettes et fragments. J'ai juste mis un petit exemple d'une de ces versions. Et donc le texte nous dit la chose suivante. Donc le rituel pour que le mal de cet enfant n'approche pas son père ou sa mère, pour faire que ce désastre passe son chemin, que le mal s'en aille ailleurs et pour qu'il n'approche pas son père ou sa mère. Son rituel, au matin, dans un lieu reculé de la campagne, tu asperges le sol d'eau pure. Tu installes trois tables d'offrandes pour Ea, Shamash et Assalori. Tu répands des dattes, de la farine. Tu places des pains, des gâteaux, de miel et du beurre clarifié. Tu installes un vase à libation. Tu verses de la bonne bière. Derrière l'assemblage rituel, tu répands les herbes du jardin. Tu sacrifies l'animal. Tu traces des traits. Tu répands un tas de farine. Cet homme se tiendra derrière l'arrangement rituel. Il dira ainsi, incantation, « Ea Shamash Ea Salouri, Dieu glorieux, juge suprême qui décidait du destin, qui élaborait les plans, vous qui résidez dans le ciel d'Anne, c'est vous qui décidez du destin des hommes. » Et l'incantation continue encore sur plusieurs lignes, dans lequel l'homme, cet homme, c'est-à-dire le père, développe son mal-être et à quel point il a besoin de l'aide des dieux. Cette naissance au mois de Nissan implique donc pour le parent de procéder à la mise à mort sacrificielle d'un animal. La procédure s'adresse à un individu sans indication de sa fonction sociale, de son rang. N'importe qui peut être concerné par une naissance au mois de Nissan finalement. Le sacrifice mentionné se déroule en dehors des pratiques rituelles journalières et publiques, loin du temple et de la sphère royale. Ce sacrifice invite à interroger la place de la pratique dans le cadre privé. Comme le montre cet exemple, le sacrifice n'est pas réservé aux seules grandes fêtes publiques, mais peut recouvrir d'autres réalités et s'insérer dans la sphère privée en s'adressant à d'autres niveaux de l'échelle sociale. C'est ce que je souhaiterais aborder avec vous aujourd'hui. Quelle est la place et la fonction du sacrifice dans la sphère privée? À quel moment de sa vie l'individu peut y avoir recours? Quelle forme, en mettant forme au pluriel, prend ce sacrifice? Ce dernier marque-t-il des étapes spécifiques, comme la naissance? Ma présentation vient ainsi en complément de celle qui a été donnée l'année dernière dans ce même séminaire par mon collègue Lionel Marty, qui avait abordé le sacrifice dans les sources cunéiformes, en particulier dans la sphère palatiale. Et donc là, je vous invite à une autre présentation du sacrifice, à un autre niveau de pratique. Alors, par sacrifice en Mésopotamie, on entend l'offrande ritualisée à une ou plusieurs divinités d'une ou plusieurs denrées, substances qui peuvent être végétales, animales ou autres. En sumérien, on traduit par sacrifice la base nominale Siskour, qui, d'un point de vue étymographique, représente un veau, amar, dans lequel figure le signe du grain, ché. On dit souvent c'est le veau se nourrit au grain. Le champ sémantique de cette base, de Ciscourt, est particulièrement vaste et inclut tout ce qui concerne l'offrande, donc ce n'est plus seulement l'animal, mais ce sont les offrandes en général, et également les prières qui les accompagnent, car le sacrifice est une combinaison de gestes et de paroles efficaces. Cette base Ciscourt est attestée dans les sources au moins depuis le milieu du 3e millénaire avant notre ère, dans la période que l'on appelle le dynastique archaïque III. Elle est surtout employée dans la documentation administrative d'Ur III, c'est-à-dire à la fin du 3e millénaire. Elle a pour équivalent acadien l'expression Nikanaku, littéralement verser la chose à verser, qui est attestée depuis le début du 2e millénaire avant notre ère. Le liquide ou ce qui est à verser peut être de l'eau, de la bière, d'autres substances liquides, mais aussi des matières que l'on peut verser, comme des céréales, de la farine, ou également du sang. L'acte repose sur la disparition de la matière qui peut impliquer une mise à mort et qui se déroule dans le cadre ritualisé de l'interaction entre l'humain et les puissances divines. En sumérien et en acadien, le vocabulaire est varié et recouvre différentes réalités. J'emploie ici le terme sacrifice comme une catégorie analytique permettant de regrouper des pratiques qui impliquent l'offrande ritualisée d'une substance, parfois animale, dans un cadre d'interaction avec les dieux. Mais les textes montrent bien que ces pratiques s'insèrent dans des dispositifs variés. Le sacrifice n'est pas seulement un rituel public organisé par les temples ou la royauté, mais il intervient aussi à des moments critiques de la vie individuelle. Ce sont ces moments que je souhaite interroger avec vous. Et mon fil rouge, pour constituer mon corpus, a été de prendre les rituels dans lesquels il est question de la mise à mort d'un animal. L'étude des pratiques rituelles dans la sphère privée pose cependant un problème méthodologique important. Les sources cunéiformes ne sont presque jamais produites pour décrire la vie religieuse ordinaire des individus. Elles répondent à des objectifs précis, qui peuvent être administratifs, juridiques ou savants, et ne mentionnent souvent les pratiques individuelles que de manière indirecte ou détournée. La distinction entre sphère publique et sphère privée ne doit pas être pensée de manière trop rigide. Les pratiques religieuses individuelles se déploient souvent dans des espaces et des configurations intermédiaires, pouvant avoir lieu dans le temple ou dans la maison de l'individu, et avec, ou non, la présence d'un expert du rituel. Avant d'aller plus avant dans ma présentation, d'autres remarques méthodologiques sont indispensables, et celles-ci ne relèvent pas du sujet que je vous présente aujourd'hui, mais sont propres aux sources cunéiformes en général. Je devrais en fait formuler mes questions autrement. Il s'agit moins d'identifier la place générale du sacrifice pour l'individu dans sa vie quotidienne que plutôt d'identifier les situations sacrificielles qui sont mises par écrit dans les sources. Les données sont tributaires des tablettes à disposition ou des représentations iconographiques. Et bien qu'elles soient abondantes, on compte à ce jour plusieurs centaines de milliers de tablettes cunéiformes qui ont été dégagées, les découvertes épigraphiques sont inégalement réparties dans le temps, dans l'espace, mais aussi selon des typologies très variées. Là, sur la diapo, vous avez une carte qui vous représente la quantité de tablettes qui ont été retrouvées en fonction des différents sites. Plus la tablette est grosse, plus il y a donc abondance de tablettes. Vous voyez bien qu'on a affaire à une répartition qui n'est pas homogène sur le territoire. Et à ce filtre, il faudrait rajouter le filtre chronologique, qui fait qu'on n'a pas la même répartition aussi, suivant toutes les périodes qui sont documentées par l'écriture cunéiforme. Les corpus offrent ainsi en fait des éclairages ponctuels, ciblés, sur des pratiques dont la mention par l'écriture reste avant tout conditionnée par le contexte d'énonciation et l'intention du rédacteur. Un bordereau administratif n'apportera pas les mêmes informations qu'une composition narrative ou qu'un texte prescriptif contre la sorcellerie, par exemple. La même prudence donc est de rigueur quand on aborde les phénomènes sur le plan chronologique, chronoculturel. Les pratiques identifiées dans le sud mésopotamien à la fin du 3e millénaire ne peuvent pas être mises sur le même plan ou reliées culturellement à celles de l'Assyrie du 1er millénaire. Il nous faut garder une certaine distance et avoir conscience qu'on a affaire à des sociétés différentes. Et donc il ne faut pas tomber dans le piège de combler les lacunes par des témoignages anachroniques et accepter parfois la part d'obscurité et l'absence de réponse. Alors, pour aujourd'hui, j'ai structuré mon propos en micro-dossiers, que je n'ai pas cherché à lier les uns aux autres. Je veux juste vous présenter quelques éclairages à travers la documentation cunéiforme. Ces dossiers traitent de la vie des individus et de différents types d'événements dont ils peuvent faire l'expérience tout au long de leur vie. Certains événements peuvent se produire à plusieurs occasions, d'autres au contraire sont ponctuels et impliquent des changements de statut, à l'instar du mariage. Les thèmes que nous allons aborder relèvent essentiellement du corpus cunéiforme et donc les thèmes ont été conditionnés par ce corpus. Si je n'ai pas pu identifier des sacrifices pour d'autres moments que nous considérerions comme importants ou comme marquants pour la vie privée, cela ne veut pas dire que ces sacrifices n'existaient pas, mais simplement qu'il n'y en a pas trace dans la documentation qui est à disposition. Alors, fort de ces recommandations, nous pouvons nous lancer dans notre exploration. Mon premier dossier concerne l'installation du lit de la belle-fille dans sa belle-famille. Je vous invite là, cette fois, dans le sud de la Mésopotamie, à la toute fin du troisième millénaire avant notre ère. Nous sommes à la période dite d'Ur III, de la troisième dynastie d'Ur. Ces rois gouvernent un territoire qui va d'Eridu à peu près Sippar. Alors, je ne sais pas si j'ai un pointeur. Et si vous voyez ma main, avance lentement, mais sûrement. Donc, il va du sud de la Mésopotamie jusqu'à à peu près au nord de Sippar, ici. Pour cette dynastie, leur, entre guillemets, armée de fonctionnaires, répandue à travers le royaume, enregistre toutes transactions et opérations comptables. Ils nous ont ainsi laissé une quantité astronomique de bordereaux administratifs qui nous permettent d'avoir accès, de façon indirecte, à la vie quotidienne de cette région vers 2100-2000 avant notre ère. Le deuxième roi de la dynastie, un certain Shulgi, a fondé Puzrish Dagan, que vous avez au milieu, ici. Donc Shulgi fonde Puzrish Dagan, qui est sur le site actuel de Dréhem et qui est considéré comme une sorte de parc à bestiaux, un centre où convergent les impôts et les taxes sous forme d'animaux, essentiellement, des animaux qui sont ensuite redistribués dans les principaux temples et centres cultuels du royaume, notamment le grand centre de Nippur, qui n'est pas loin de Puzrish Dagan. Avant d'être sacrifiés, les animaux peuvent être engraissés. Le calendrier liturgique de cette période d'Ur III est bien connu. Les fêtes publiques impliquent le roi et les membres de la famille royale, mariages, funérailles et d'autres fêtes liées au calendrier qui sont consacrées à différentes divinités sont à chaque fois l'occasion d'offrandes végétales et animales, parfois en très grande quantité. Et on se situe là, pour ce calendrier, dans le cadre exceptionnel de la royauté et de la vie politique de la communauté. Si on cherche des informations sur les pratiques privées des individus appartenant à des niveaux sociaux donc inférieurs, puisque non royaux, les données sont plus ténues, voire absentes. Grâce à la documentation légale assez abondante, on a des informations sur le cadre juridique du mariage, notamment, mais sur les gestes rituels qui devaient accompagner le changement d'état civil ou le statut des jeunes mariés, c'est plus difficile. Sauf peut-être pour un cas, celui de l'installation du lit de la belle-fille, comme nous allons le voir à présent. Alors, l'expression « installation du lit de la belle-fille » correspond au terme, à l'expression sumérienne « nougoubba egia », littéralement, ce serait le lit installé de la belle-fille, avec « egia » qui désigne bien celle qui va épouser un membre masculin de la famille et qui va entrer, du coup, dans la famille. Cette mention apparaît sur 5 bordereaux administratifs, mais un des bordereaux est une copie d'un autre. Donc on est sur 4 situations qui sont documentées dans les tablettes. Voici ce qui est écrit. Pour le premier, un bœuf gras, 2 moutons gras de 4e qualité. Cela, c'est l'offrande du lit installé pour la belle-fille d'Ur-Ishkur, gouverneur de Ramazi. Shunin Shubur, le messager, est le responsable. Deuxième exemple, 2 moutons, difficile de savoir de quel type de mouton c'est, 3 moutons gras. Ceci, ce sont les offrandes pour le lit installé. Lugal Magour est le responsable. C'est installé pour la belle-fille, enfin, lorsque la belle-fille deviendra la belle-fille de Charumbani. Troisième exemple. un bœuf gras, offrande pour l'installation du lit de la belle-fille d'Arwitum. Choussine Lamahar, les chansons, est le responsable. C'est pour la cérémonie de la nuit du 17e jour. Cela provient du domaine de Shulgili, livraison par Nana Maba, le fonctionnaire Chatham et Shouera, le scribe. Et le texte continue. Dernier exemple. Trois moutons gras de bonne qualité, un mouton gras de troisième qualité, deux moutons gras, trois moutons. Ce sont les offrandes pour l'installation du lit de la belle-fille. Et après, comme vous pouvez le constater sur la photo à droite, la tablette est de très mauvaise qualité et ne permet pas de reconstituer le nom des différentes personnes impliquées. Alors, ces bordereaux font tous référence à des offrandes, avec le terme sishkour, des offrandes animales pour un sacrifice qui est accompli dans le cadre de l'installation du lit de la belle-fille dans la famille de son époux. Les animaux arrivent à Pousrij Dagan pour être probablement redistribués dans un centre cultuel. Les bordereaux intègrent parfois d'autres transactions qui ne sont pas liées à ces événements. La qualité et la quantité des offrandes n'est pas la même. Suivant les cas, nous avons un bœuf gras et deux moutons, un autre cas, cinq moutons, un autre, un bœuf gras, d'autres, cinq moutons avec des moutons de nature différente. Peut-être ces différences dépendent-elles des capacités économiques du commanditaire, ça, je n'ai pas la réponse. Le moment du sacrifice en question n'est pas connu, mais ce n'est pas l'objectif de ces textes. Seul le troisième bordereau donne une indication probable sur le moment du rituel par la mention du terme agiba, traduit par la nuit, en parlant de plutôt la partie autour de minuit, et qui désignerait une cérémonie cultuelle nocturne, attestée dans la documentation d'Ur III en lien avec différentes divinités, mais là, il faudrait mener une enquête plus poussée sur ce rituel, ou sur ces rituels qui avaient lieu à ces moments-là de la nuit. Dans tous les cas, l'anthroponyme de la belle-fille n'est pas mentionné, et peu d'informations peuvent être retrouvées dans les sources. Seule exception, peut-être le premier cas. Donc celui avec un bœuf gras, deux moutons gras de quatrième qualité, donc la belle-fille d'Ourishkour. Pour cette jeune fille, d'autres bordereaux la concernent et nous permettent de comprendre un petit peu plus la situation. Alors, son beau-père est Ourishkour, la plus haute autorité administrative et politique de la ville de Ramazi. Sur un autre bordereau, on apprend que la jeune fille se nomme Tabour Khatoum. C'est ce que vous avez ici qui est entouré donc en rouge. On nous parle de Tabour Khatoum, l'Eguia d'Ourishkour. Donc là, on a le prénom de la jeune fille. Et le bordereau indique aussi que c'est le jour où elle est arrivée à Ramazi. Si on regarde la date du document, la date nous est indiquée à la fin des bordereaux administratifs, donc par le mois et le nom d'année, et c'est très, très précieux pour essayer de replacer quand est-ce que l'enregistrement a été fait. Et ça nous indique que le document a été enregistré lors de la septième année de Choussine. Le premier bordereau qui enregistre l'installation du lieu, du lit de la belle-fille, a lieu lors de la neuvième année d'Amarsine, c'est-à-dire sept ans avant. À peu près. Donc 7 ans séparent le moment où on installe le lit de la belle-fille et le moment où elle entre dans la famille de son beau-père véritablement, là où elle quitte ce foyer familial pour aller dans la belle-famille. Par rapport au statut social de cette Tabour Khatoum, on pense qu'il devait être assez élevé et vu avec qui elle va se marier, dans quelle famille elle intègre. On voit que Ourishkour commande aussi, fait venir une grande quantité d'animaux pour le banquet, probablement nuptial, puisqu'il est question dans un des documents de 2714 animaux qui sont sollicités. Si on ne connaît pas l'anthroponyme de la belle-fille, on connaît en revanche mieux celui qui ordonne, celui qui commande le sacrifice. Alors, le quatrième bordereau est trop fragmentaire pour qu'on ait la moindre information. Dans celui que l'on a vu juste avant, on a Ourishkour qui est gouverneur, donc je l'ai déjà présenté, donc c'est un statut social très élevé. Et ensuite, on a Charoum Bani, qui est en fait un anthroponyme assez fréquent dans les sources, donc c'est difficile de voir un petit peu qui il est, mais un de nos collègues, Lorenzo Verderame, en 2022, a repris les bordereaux qui le mentionnaient, et il arrive à la conclusion que le Charoum Bani qui est mentionné est un général dont l'épouse elle, est Gemme Enlila, qui appartient à la famille royale. Cette Gemme Enlila est qualifiée de Dumumunus Lugal, c'est-à-dire de princesse. Dans un des documents, Nisaba 33-314, précise que il y a un mouton gras qui est livré au temple d'Inanna le jour où Gemme Enlila, l'épouse de Sharrumbani le général, a donné naissance. J'ouvre ici une brève parenthèse, mais cette courte mention est une précision sur une offrande animale faite lors de la naissance d'un enfant. Mais je laisse ça pour de futures recherches, ça nous éloigne de notre sujet. Enfin, le dernier cas est Arwitum. Arwitum est un prénom féminin. Elle apparaît d'ailleurs dans d'autres bordereaux et souvent en lien avec cette belle fille. Elle est qualifiée, Arwitum, d'épouse, avec le terme d'âme en sumérien, d'un certain Hun Khab'ur, on ne sait pas trop comment lire l'anthroponyme. Mais quoi qu'il en soit, donc, elle est son épouse, et lui, on peut voir que c'est un haut fonctionnaire, peut-être un général qui est responsable d'un butin à un moment, qui est en activité également dans une certaine zone. Un fils leur est connu, Idin Swen, qui est peut-être le futur époux de la belle-fille pour qui on installe le lit. Dans tous les bordereaux qui mentionnent la cérémonie d'installation du lit, l'ordonnateur est le beau-père. Ici, il est remplacé par son épouse, Arwitum. Si elle agit ainsi, c'est probablement parce que l'époux est décédé. C'est en tout cas une des hypothèses qui est formulée. Les bordereaux que je viens de vous présenter documentent un rituel sacrificiel en lien avec la vie privée. Cette installation du lit est une des étapes qui précède le mariage proprement dit. La typologie de nos sources administrative ne nous renseigne pas sur les modalités d'exécution du rituel. On ne sait pas quelle divinité, au pluriel ou au singulier, était le destinataire de cette offrande. Il est en outre, finalement, assez étonnant de n'avoir que 4 mentions de cette cérémonie dans tout le corpus d'Ourtrois, qui rassemble quand même plusieurs dizaines de milliers de tablettes. Pourquoi ? L'installation du lit était-elle une pratique marginale ? Ou au contraire, relevant de traditions locales et donc extérieures. Dans tous les cas que nous avons parcourus, ce n'est jamais la jeune fille ou la famille de celle-ci qui est à l'initiative du sacrifice. L'offrande animale est faite au nom de la belle famille qui l'accueille, en particularité l'autorité principale, le beau-père, ou la belle-mère, dans le cas d'Arwitum. Il ne s'agit pas d'un sacrifice par procuration, celui-ci est bien destiné au bénéfice de l'ordonnateur, à savoir le chef de famille. L'arrivée de la belle-fille constitue une étape importante de la vie de la maisonnée, puisque cette arrivée doit amener une descendance en bonne santé et garantir la prospérité et la longévité de la lignée. Mariage et naissance sont ici intrinsèquement liés, comme dans le cas de la naissance que je vous ai présentée au début et sur lesquelles je vais revenir. Alors, je ferme ce dossier d'Ourtrois et j'ouvre maintenant le nouveau, le second. On va faire un bond de 1000 ans et nous rendre en Assyrie, à l'époque dite néo-assyrienne, 8e, 7e siècle avant notre ère. Les sacrifices documentés dans les sources concernent en majorité la sphère publique et impliquent le roi et les membres de la famille royale. La vie privée des individus est plus difficile à explorer, mais se laisse approcher tout de même. Par analogie avec ce qui se passe dans les hautes sphères de la société, les événements importants comme le mariage, les funérailles, devaient être nécessairement accompagnés de festivités auxquelles les dieux étaient conviés. Des sacrifices devaient être offerts, quantité et qualité devant certainement être adaptés en fonction du niveau économique et social de l'individu. Les événements qui semblent marquants sur le plan rituel, c'est-à-dire marquants pour nos sources cunéiformes, sont avant tout liés à un danger, un trouble, un mal qui doit être traité par l'aide des divinités. Dès lors, l'appellation « étape de la vie » finalement est impropre, et j'en ai conscience, et l'appellation doit plutôt être envisagée pour désigner ces moments où l'individu est en situation de blocage, plongé dans un malheur ou la détresse, voire un état de non-vie, et au cours desquels il a besoin d'une intervention divine. Dans cette perspective, la pratique sacrificielle semble être d'abord attestée pour tout ce qui touche à la divination. L'extipicine était la méthode divinatoire principale et requérait l'offrande d'un mouton. La réponse des dieux se lisait ensuite dans les signes inscrits sur les organes internes. Mais d'autres circonstances dramatiques peuvent amener l'individu à demander l'accomplissement d'un sacrifice. L'absence d'enfant, par exemple, est une source d'angoisse suffisante pour avoir recours à l'aide des dieux. dans une lettre adressée au souverain assyrien, l'exorciste Urad Gula est désespéré. Du temps du prédécesseur, du père du roi, il avait été élevé à une des plus hautes fonctions, mais depuis le couronnement du nouveau roi, il est tombé en disgrâce et subit malheur sur malheur. C'est ce qu'il nous raconte dans une des lettres qu'il adresse au roi. Il se sent rejeté, et surtout par le roi qui ne semble pas reconnaître toutes ses qualités. Il expose sa situation dramatique pour susciter l'empathie du roi, pour qu'en retour, celui-ci améliore sa situation. Et à un moment de la lettre, il dit, après avoir fait état d'autres malheurs, « Voilà, je suis entré dans le temple de Kidmourou, c'est-à-dire c'est un des temples à Nimrud, et j'ai arrangé un banquet. Mon épouse me perturbait et pendant 5 ans, elle n'était ni morte ni vivante, et je n'ai toujours pas d'enfant. » Le banquet, car c'est le terme qui est employé, a été organisé par le plaignant dans un temple. Le terme assyrien, Karitu, renvoie à Keritu, un équivalent akkadien au sumérien Kajdea, qui veut dire banquet. Mais le Keritu est généralement mentionné aussi avec les offrandes qui accompagnent les gestes, les paroles de prière, dans le cadre de fêtes publiques et privées. Dans la littérature suméro-acadienne, ce terme désigne les moments où les dieux festoient, un moment de convivialité partagé autour de la nourriture et des boissons, souvent alcoolisées. Et en contexte rituel, le terme peut être aussi synonyme d'offrande sacrificielle. La démarche du savant malheureux, offrir un banquet sacrificiel dans le temple, est étroitement associée à l'infertilité de son couple et l'état de santé de son épouse qui l'empêche d'avoir une descendance. L'objectif de cette offrande rituelle est donc de plaider sa cause devant le ou les dieux afin que ces derniers changent la situation qui est devenue insupportable et qui empêche le patient de vivre pleinement sa vie. L'infertilité constitue un état tout aussi dangereux que la naissance et doit être traité rituellement. Je reprends le rituel par lequel j'avais ouvert mon propos. Donc, on était dans le cas d'une naissance au mois de Nissan, qui allait mettre en danger les parents. La procédure rituelle qui est décrite a pour objectif de lutter contre le mal apporté par une naissance qui a eu lieu à un moment précis du calendrier. Le mal ne concerne pas l'enfant, dont il est assuré qu'il vivra. La victime du présage, c'est le parent, père ou mère, ou les deux. Le problème n'est pas la naissance proprement dite, mais la date à laquelle celle-ci a lieu. Comme pour l'installation du lit, que l'on a vu précédemment pour Our 3, le rituel n'est pas accompli par le nourrisson, ni même au nom du nourrisson, mais il est accompli par son parent, père ou mère, ou les deux, car ce sont eux les victimes potentielles. Ainsi, ce rituel, en contexte de naissance, marque un moment important, moins pour l'enfant que pour la vie de l'adulte. Regardons ensemble les différentes étapes de la procédure. Celle-ci ne se limite pas à la mise à mort de l'animal, mais repose sur un dispositif complexe où gestes et paroles se combinent autour de la manipulation de substances de différentes natures. Le rituel a lieu loin de la communauté humaine, un espace hors de l'activité du monde. Cette exclusion garantit l'établissement de la communication intime et privée avec les puissances divines, une communication qui est limitée aux stricts intéressés par la démarche, à savoir le patient, la victime et l'expert. Cette contrainte spatiale évite une double contamination, celle qui viendrait de l'extérieur sur la scène rituelle et qui empêcherait la communication, et celle qui partirait du patient, celui sur qui pèse le mauvais présage, et qui pourrait donc contaminer les autres, d'autres membres de la communauté. Après avoir purifié l'espace, 3 autels sont installés. Le terme acadien employé est « patirou », qui désigne la table d'offrande, qui est écrit sous forme logographique guidoua. Le terme acadien est issu de la racine patarou, qui signifie délier, défaire, et qui est employé principalement en contexte rituel et incantatoire pour désigner l'action de détruire le mal, comme celui qui est contenu dans un mauvais présage. Patirou désigne une structure végétale légère, c'est ce qu'indique la présence du gui, le logogramme qui désigne le roseau. Dans son édition sur les rituels Namburbu, la syriologue Stéphane Maul propose d'identifier ces tables patirou avec celles qui sont représentées en iconographie à la même époque, donc néo-assyrienne. Sur la diapositive, vous avez en haut une scène tirée d'un des bandeaux de Balawat, donc d'Imgur Enlil, qui date de Salmanazar III, on est au 9e siècle avant notre ère, et qui est conservée actuellement au British Museum. Vous avez une procession composé de prêtres et puis d'animaux qui s'avancent vers une statue divine. le cadre rituel est explicite avec cette statue, et devant la tête de file de la procession, vous avez des installations ici en structure, qui correspondraient à ces pâtirous, à ces tables d'offrande. Devant le roi, dans un bas-relief, celui-ci daté d'Assurbanipal, on est au 7e siècle avant notre ère, le roi procède à une libation sur des lions, c'est tiré des épisodes célèbres de ces chasses aux lions qui sont représentés en bas-relief, et la libation rituelle se fait devant une de ces tables d'offrande qui est bien garnie et qui est placée devant ce que l'on identifie comme étant une forme de brûle-parfum. La table pâtirous est installée sur le lieu de la procédure rituelle et est donc montable et démontable. Elle crée un espace propre à chaque divinité que l'on souhaite rendre présent au lieu du rituel. Cette table est consacrée aux dieux Ea, Shamash et Assalori, ces tables sont consacrées chacune à une divinité spécifique, donc Ea qui est le dieu des savoirs et de la magie, le dieu des eaux souterraines de l'Apsu, Shamash, le dieu soleil, le dieu de la divination et de la justice, et Assalori, le dieu de l'art incantatoire. Si Shamash est présent parce que l'on se situe au matin, donc avec le soleil qui se lève, pour Ea et Assalori qui ne sont pas associés à des éléments de la nature, il est possible que leur statue, symbole, étendard ou toute autre représentation matérielle ait été installée sur le lieu du rituel. On sait aussi que Shamash pouvait être représenté matériellement. Pour chacun des dieux, des offrandes alimentaires sont disposées, des fruits, des gâteaux, de la bière. Le terme Adagour, logogramme ou Adagourou, désigne moins un type de récipient spécifique que la fonction du récipient qui est de recevoir les substances que l'on va verser en libation. Des herbes sont ensuite disposées à côté et on comprend plus loin dans l'incantation que ce sont des herbes qui portent le mal contenu de l'individu qui vont ensuite être jetées dans le fleuve pour que le fleuve emporte au loin ce mal. Enfin, on a le sacrifice d'un animal, où il est dit que donc l'animal est versé par l'officiant. C'est là que le texte est particulièrement laconique. Aucune information ne nous est donnée quant à la préparation de l'animal ou aux modalités de son exécution. Des gestes et procédures rituelles préparatoires devaient être accomplis pendant la nuit si on se base sur d'autres rituels où on sait que la nuit constitue un moment privilégié pour préparer toutes les opérations qui vont être faites au lever du soleil. L'animal est ici désigné par le logogramme Oudou Siskour, mouton de l'offrande, mouton du sacrifice, sans préciser les qualités de celui-ci. Ensuite, on a des traits qui sont tracés, un geste que l'on retrouve dans d'autres procédures rituelles pour établir des limites spatiales à l'action rituelle, en particulier en utilisant de la farine ou de la laine. Toutes les opérations que je viens de décrire sont accomplies par l'expert du rituel. Vient enfin le patient, le père de l'enfant. Il n'apparaît que dans un second temps, lorsqu'il prononce la parole incantatoire efficace. Cette parole formule oralement les intentions et les attendus de l'action divine recherchée par la procédure sacrificielle. L'incantation vise à demander au grand Dieu d'écouter la requête et pour pouvoir corriger ensuite le destin de la victime, qui est menacée par le présage funeste. La procédure ne peut être efficace que si l'ensemble des éléments, gestes et paroles, sont accomplis convenablement. On a deux incantations qui sont prononcées successivement, l'une adressée à Ea, Shamash et à Assalori, et la deuxième qui est adressée au fleuve dans lequel les herbes contaminées sont jetées. Le déroulement du rituel que nous venons d'analyser ne varie que très peu par rapport à d'autres opérations rituelles qui concernent l'individu dans sa vie privée. Les raisons d'avoir recours à un sacrifice animal sont multiples. Lutter contre l'impuissance, contre des actes de sorcellerie, contre des mauvais présages apparus lors d'opérations rituelles. Ce sont à chaque fois des moments considérés comme dangereux et pour lesquels l'action divine est indispensable si le patient veut sauver sa vie. Alors, dans un rituel qui consiste à fabriquer une figurine de chien qui va après protéger l'individu contre différentes maladies et mauvais présages, l'officiant va s'adresser au grand dieu Marduk. La figurine a pour fonction donc de protéger le patient contre différents maux. Et cette figurine représente et rend présent une entité bienveillante appelée chien sauvage, où certains y voient une entité hybride homme-chien, mais littéralement donc chien sauvage. Je vous propose de le parcourir en détail, parce qu'on a toutes les opérations rituelles qui sont sollicitées du début à la fin, du moment où on commence le rituel jusqu'au moment où on range tout l'appareil rituel. Ça me paraît intéressant de voir un petit peu toutes ces étapes. Je vous présente par avance mes excuses parce que le texte est un peu long, mais il me paraît important de le prendre du début à la fin. Donc, voici comment il s'ouvre. Son rituel, tu fabriques une figurine de chien qui doit être en bois de cèdre. Tu l'enfiles sur un fil d'or, tu entoures un cordon de lin dans une boucle en or, tu enfiles une pierre appelée roulalou et une obsidienne noire. Tu places cela dessus, donc probablement sur la figurine. Il y a une incantation qui est écrite en sumérien, alors que toutes les autres opérations et d'autres incantations vont être, elles, en acadien. Là, on utilise une langue spécifique. L'incantation, tu es Asari, chasse l'ennemi, éloigne les maléfices. Cette incantation, tu l'écris sur la figurine de chien sauvage. Deuxième étape du rituel, qui se déroule la nuit. Tu balais le toit, tu asperges d'eau pure, tu installes deux tables d'offrandes pour le couple divin Marduk et sa parèdre Zarpanitou. Tu répands des dattes, de la farine fine, des pains de la base de miel, de beurre clarifié. Tu répands des herbes dans deux encensoirs. Tu fais deux sacrifices purs. Tu présentes l'épaule, la graisse et la viande. Tu verses de la bière. Tu places la figurine du chien et ses accessoires entre les deux arrangements d'offrande. Tu dis ainsi, accepte Marduk, seigneur des Sagil, grand seigneur. Accepte Tsarpanitum, reine de Babylone, grande dame. Tu recules et tu enduis deux briques avec de la terre sombre, qui porte le nom de Rabou. Tu les places à droite et à gauche de l'arrangement d'offrande. Tu entasses des brindilles, alors le terme, enfin la traduction est pas terrible, ça désigne des morceaux de roseau. En tout cas, on fait un tas avec des substances végétales. Tu enfonces dedans du cèdre, du cyprès, du bon roseau. Tu prends le feu d'un bol non cuit et tu enfonces du cèdre, du cyprès, du bon roseau à l'intérieur de deux torches. Tu les décores avec de la laine blanche et de la laine rouge. Tu les allumes et avec un feu de souffle, tu les jettes sur ce fameux tas de brindilles, de roseaux. Tu dis, acceptez, grand Dieu, vous tous dont le nom est invoqué. Tu répands ensuite de la farine, tu verses de la bière, tu recules et tu récites trois fois l'incantation. Marduk, grand seigneur, premier du ciel et de la terre. Alors, comme souvent dans ces textes prescriptifs, on n'a pas la totalité de l'incantation, on a juste le titre. Dès que tu l'as récité, tu lèves la figurine de chien et l'incantation qui est écrite sur la figurine du chien. Tu la récites sept fois devant le tas de brindilles de Marduk et sept fois devant le tas de Tsarpanitum. Dès que tu l'as récité, tu te tiens entre les deux arrangements d'offrandes et tu dis ainsi, toi, tu es chien sauvage, gardien de la santé de Marduk et de Tsarpanitum. Il t'a donné une mission pour la vie et la santé, c'est à moi que tu as été donné. Désormais, observe l'ordre de Marduk et écoute l'appel de Tsarpanitum. Devant Marduk et Tsarpanitum, le texte est un peu cassé, tout mal, tout ce qui est néfaste, c'est-à-dire main d'un dieu, main d'une déesse, main d'un fantôme, main d'une maladie, main de l'humanité, tout ça désigne des maladies, chasse-le de mon corps. Qu'il ne m'approche pas, qu'il ne s'approche pas de moi, par ordre de Marduk, le grand seigneur, et de Tsarpanitum, la dame exaltée. Dès que tu as récité cela, tu te prosternes. Lorsque l'arrangement rituel a brûlé et que l'encensoir a consumé sa part, tu désinstalles, tu défais l'arrangement rituel, tu répands des graines de pain devant la figurine de chien sur l'encensoir. Le matin, donc on a encore une nouvelle étape, tu te purifies avec du gypse, tu passes cela autour de ton cou, tu ôtes le vêtement impur, tu poses trois fois un étui en cuir sur lui, donc le patient, la victime, il soigne et alors il ira bien. Alors, à titre indicatif, la toute fin de la tablette a une mention que je trouve particulièrement intéressante qui dit « Nepeshi likke sha anna kati shutsu » utilise le matériel disponible, montrant ainsi que le dispositif est avant tout une affaire d'adaptation avec la réalité matérielle de chaque situation. Les matières se substituent si elles partagent des propriétés sensibles ou présentent des liens analogiques. Souvent, les liens analogiques nous échappent, par contre. La procédure est longue. Elle commence dans la journée par la fabrication de la figurine, le montage d'un collier, l'inscription de l'incantation en sumérien sur l'animal et se prolonge la nuit. La procédure a lieu sur le toit. Donc, comme il n'est pas précisé, c'est sûrement le toit de la maison de l'individu. L'individu est contaminé, son espace de son domicile également. Donc, on va procéder au rituel sur le toit. Ce toit est balayé, aspergé pour supprimer toute impureté. Deux tables d'offrandes sont installées, chacune destinée aux divinités que l'on souhaite convoquer. Il s'agit d'un couple, Marduk et Tsarpanitoum, mais chacun à sa place. Les offrandes alimentaires sont déposées sur chacune en quantité et qualité égales. Il y a deux encensoirs, probablement une pour chaque divinité, qui sont installés, et l'officiant y répand des herbes. Malheureusement, la nature de ces herbes n'est pas précisée. Deux sacrifices ont lieu. L'animal n'est pas offert vraisemblablement en entier aux divinités, mais on offre à chaque divinité les mêmes parts, c'est-à-dire l'épaule, la graisse et la viande. On procède à une libation de bière pour chacun. La figurine de chien est placée entre les deux arrangements. Une incantation est formulée par l'officiant, adressée directement au couple divin pour qu'ils acceptent l'offrande qui leur est faite. Les briques induites sont ensuite installées de part et d'autre de l'arrangement. Du roseau, probablement rendu odorant par le cèdre et le cyprès, ou le fameux bon roseau, sont ensuite brûlés. Une incantation avec la même finalité que la précédente est à nouveau prononcée. On a à nouveau une libation de farine, de bière. Une nouvelle incantation est formulée trois fois. La figurine est levée, l'incantation qui est inscrite en sumérien est prononcée sept fois, et donc on a une récitation en sumérien qui se fait devant chacune des divinités. On a une nouvelle incantation qui est prononcée par l'officiant, et celle-ci a pour fonction d'activer l'objet, d'activer la figurine et de faire passer l'objet fabriqué qui représente un chien à l'agent chien qui est là pour protéger le patient et qui est ainsi présentifié, rendu présent donc par la figurine. La fin du rituel est marquée par la fin du feu des substances végétales que l'on a, dont on a mis le feu au cours de la célébration, et la consommation de l'encensoir. C'est là l'indication que le rituel prend fin, et c'est alors que le dispositif peut alors être démonté et rangé. Enfin, le rituel prend fin, non parce qu'il y a encore quelques opérations. Au matin, le matériel constitué par le collier, la figurine, peuvent être portés, non sans quelques préparations de purification par l'officiant qui a fait la procédure et également par le patient, le véritable destinataire de cette procédure. Toutes ces étapes sont fondamentales et ne peuvent se substituer ou être remplacées ou complètement oubliées. Le même schéma peut être identifié dans d'autres procédures sacrificielles liées à la vie privée. Je ne prends que deux exemples. Parce que les situations sont très diverses quand on commence à explorer le corpus. Il y a tout d'abord ici un rituel qui est destiné à lutter contre un accusateur, qui consiste à installer un creuset devant le dieu Shamash, le dieu soleil, sur lequel sont fixées plusieurs figurines faites de différentes matières. Des offrandes alimentaires sont disposées sur un autel, puis un sacrifice est accompli. On retrouve les mêmes parts de l'animal, c'est-à-dire l'épaule, la graisse, la viande, qui sont présentées, des libations qui sont versées. Et la procédure se termine par la destruction par le feu des figurines, parce qu'elles portent le mal en question. L'officiant prononce l'incantation destinée à neutraliser l'accusateur. Dans un autre rituel, qui est destiné dans le cadre d'une procédure contre la sorcellerie, cette fois plusieurs tables d'offrandes sont installées pour les dieux Ea, Shamash et Assalouri. On a des offrandes de pain spéciaux, de farine, qui sont à chaque fois les mêmes, mais disposées sur chacune des tables des divinités. Un sacrifice est ensuite accompli et les parts rituelles de l'animal sont présentées aux dieux. On retrouve encore les mêmes parts, c'est-à-dire l'épaule, la graisse, la viande. L'ensemble est accompagné d'une incantation qui vise à protéger le patient contre l'acte d'un sorcier ou d'une sorcière. Alors, les différents rituels que l'on vient de voir. Le rituel contre la naissance, pour traiter une naissance à une mauvaise date, contre un accusateur, pour établir une protection pour l'officiant, activer une figurine. Toutes ces procédures n'ont pas la même finalité. Pourtant, elles répondent à un schéma similaire, décomposable en unités d'action. Dans les quatre cas que l'on a vus, seul l'officiant est à même de mettre en place le dispositif rituel convenablement. Le texte, d'ailleurs, lui est adressé. Comme vous l'avez vu, quand on l'a lu, à chaque fois, on disait « tu feras, tu fais ci, tu fais ça ». On a l'emploi du pronom personnel, et c'est là que la nature des documents est importante. Il ne s'agit pas de description détaillée à la manière d'une enquête ethnographique sur une pratique sacrificielle, comme si l'observateur était extérieur. Les tablettes cunéiformes remplissent ici une fonction d'aide-mémoire pour l'expert dans la pratique de son art. Les pratiques rituelles sont mises par écrit par un spécialiste et sont destinées à être lues par un autre spécialiste qui va accomplir la procédure. Ces spécialistes partagent les mêmes savoirs, d'où l'absence de certains éléments d'information. Malgré le détail des instructions, on ne serait pas en mesure de reproduire les rituels en rentrant chez nous ce soir. Il nous manque trop d'informations. On serait vite limité. Quelle quantité de dates doit-on répandre sur l'autel ? Idem, la même chose pour la bière. Et puis, à quoi ressemble une figurine de chien, en fait, et chien sauvage en question ? Et quelle taille elle doit avoir ? Est-ce que c'est petit ? Est-ce que c'est grand ? Voilà, il nous manque beaucoup trop d'informations. Certaines de ces réponses peuvent être retrouvées par ailleurs. Vous avez à l'écran des figurines de chiens qui ont été retrouvées. Elles sont intercuites. Elles ont été retrouvées à Ninive et datées du 7e siècle. Leur dos est inscrit de leur nom et en fait on peut les rapprocher de chiens qui sont fabriqués au cours d'un rituel qui s'appelle le Chep Lemouti. Donc ces chiens ne sont pas le chien que je vous ai présenté, mais on imagine un petit peu à quoi devait ressembler la figurine. Mais toutes ces informations qui relèvent de la quantité, de la figuration, n'ont pas été retenues dans le texte prescriptif, car sûrement jugées trop évident par l'expert. Et ces compositions témoignent là d'une tradition rituelle, scribale, stable et partagée. Dans un lieu spécifique et préparé, l'expert installe une table sur laquelle il dispose des offrandes alimentaires de différentes natures. L'animal sacrifié, sûrement, enfin, peut-être apporté en paiement, je ne sais pas, fait partie du dispositif sans en constituer le point central. D'autres libations, dépens d'offrandes végétales ont lieu et surtout l'incantation achève la procédure. L'incantation contient la requête spécifique et s'adapte à chaque situation. Elle est la seule part d'action du patient, de la victime, qui peut la prononcer dans certains cas, mais pas toujours. Il n'y a pas de dialogue avec les puissances divines qui est ouvert. C'est avant tout l'écoute qui est recherchée. La requête est formulée en des termes explicites, sans ambiguïté. Dans l'exemple avec la figurine du chien, l'incantation n'est plus seulement une plaidoirie, mais une invitation à l'incorporation de la puissance dans la matière de la figurine qui a été façonnée. Le dispositif mis en place par l'officiant n'a pas pour fonction d'infléchir le dieu ou de forcer sa réponse. Il crée les conditions pour favoriser la présence divine dans le lieu et le moment du rituel, et au moment du rituel accompli. Et mis en bonne disposition avec une table bien garnie, les puissances divines peuvent alors écouter le plaignant et se laisser convaincre. L'examen des procédures rituelles montre ici que la mise à mort de l'animal ne constitue pas le cœur de l'action rituelle. Le sacrifice animal s'inscrit dans un dispositif plus large où s'articulent différentes actions accomplies par l'expert chargé d'en assurer la bonne exécution. Formule et matière contribuent ainsi à créer les conditions de la rencontre. Les exemples que je viens d'évoquer permettent de revenir à la question de départ. Quelle est la place du sacrifice dans la vie privée, telle que nous pouvons l'apercevoir à travers les sources cunéiformes ? Les dossiers examinés montrent d'abord que le sacrifice ne doit pas être envisagé uniquement comme une pratique publique associée au temple, au calendrier. Les tablettes permettent d'en observer l'usage dans des situations plus proches de l'expérience individuelle, l'installation d'une jeune femme dans sa nouvelle maisonnée, l'occasion d'une naissance ou dans des contextes de crise, maladie, infertilité, accusation, mauvais présage, où l'individu se trouve confronté à une situation au cours de laquelle sa vie est en danger. Dans ces moments critiques, le sacrifice apparaît comme une ressource rituelle mobilisable pour établir ou rétablir un équilibre qui peut être menacé et ainsi solliciter l'intervention des puissances divines. Je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.